la semaine dernière dans le bureau de Par Jupiter.
Bon, Charline, surprise, comme c'est le dernier jour de la semaine.
Ouais, après on est en vacances.
Ouais, pour deux jours. Hein,
on va te proposer de trouver les invités gold pour ce 24 décembre.
La veille de Noël et après ces cadeaux d'un des schnapps.
Alors j'ai dit en premier parce que je crois que Guillaume il a pas encore trouvé.
Non, c'est pas vrai, moi j'ai déjà.
Ah non, c'est moi qui dis en premier.
Non, c'est moi,
Isabelle Aubray.
Ah bah super les garçons, mais attendez, pourquoi ces choix?
Bah parce que c'est beau la vie.
Bah surtout quand on est en vacances, hein.
Ouais, enfin te réjouis pas trop vite.
C'est le tube d'Isabelle Aubray. C'est beau, c'est beau la vie.
Ça d'accord, mais Gilbert Melki, c'est plus sur des critères quoi, esthétiques?
C'est lui. Comment ça?
Bah il est trop beau.
Mais non, c'est parce qu'il sait tout jouer, c'est forcément du gold, ça, voilà.
Ah ok, donc tu t'es pas foulé quoi,
c'est ça. Quand même, on a bien bossé, Charles.
Bah ouais, allez hop, j'emballe mes grosses chaussettes.
Pour le Père Noël.
Non, pour le ski.
Sinon, attendez les garçons, parce que je vous ai pas dit. Bah vu le succès de cette première semaine de Florilège. Direction souhaite une deuxième semaine.
C'est quoi un rapport à la deuxième semaine?
Bah quoi? Bah oui, bah c'est génial, on a droit à une deuxième semaine de florilège. Je pense qu'ils ont été un petit peu trop émus par mon cadeau de Noël.
On avait dit les florilèges de Noël,
pas du nouvel an.
France Inter et bienvenue à l'écoute des Florilèges de Noël, cet endroit paisible où l'on entend crépiter la blague dans l'âtre de l'actualité avant que Guillaume Meurice ne vienne y mettre de l'essence. Alors nous avons retrouvé au grenier deux belles émissions que nous vous proposons de réécouter. Toutes les deux datent de 2016, l'une avec la chanteuse Isabelle Aubray, l'autre avec le comédien Gilbert Melki. Un programme garanti donc sans Covid et sans allocution de Jean Castex, profitez-en. Quant aux chroniques, Alex, il y aura peut-être du Jean Castex dedans, parce que vous proposez à la fois des chroniques un petit peu millésimées, mais aussi d'autres qui nous ramènent à l'actualité.
C'est cela, et je commencerai par le dernier arrivé, Jamil Lechlag, qui nous parlera cinéma et spectacle vivant. Christine Gonzalez nous replonge en 2019, où elle avait fait la rencontre dans l'au-delà d'un beau moustachu en la personne de Pierre Belmar. Hippolyte Girardot nous ramène au présent avec une chronique qui s'intitule « Faisons un cauchemar ». Peut-être s'était-il relu. Et on terminera évidemment par Frédéric Promet et peut-être une des chansons que j'ai préférées cette année en duo avec Juliette Arnaud, « J'ai encore rêvé d'elle ».
Eh bien, nous allons rejoindre une chanteuse qu'on aime beaucoup.
On l'adore.
Et une bien belle personne, Isabelle Aubray, avec nous.
France Inter. Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek,
Par Jupiter.
Bonjour Isabelle Aubray.
Bonjour.
Mais qu'est-ce qui nous prouve que c'est la vraie? Parce qu'on n'arrive pas à croire que vous êtes là avec
nous. Écoutez, si vous voulez, je vais vous en chanter une.
Oh oui.
Alors, nous étions deux amis et Fanette m'aimait. La plage était déserte et dormait sous juillet. Si elles s'en souviennent, les vagues vous diront combien pour la Fanette. J'ai chanté de chansons.
Oui, c'est la vraie Isabelle Aubray.
Pour nous, c'est un oui.
T'as rêvé de faire ça, sans déconner. T'as rêvé de faire ça,
Isabelle Aubray. Qui sort un nouvel album avec 18 chansons. Une nouvelle chanson qui s'appelle Allons enfants. Généralement, par exemple, quand des chanteurs comme Aznavour ou Adamo sortent un nouvel album, ils cherchent à s'entourer de jeunes. Vous avez fait appel, par exemple, à Claude Lemel ou Georges Chelon comme parolier. Mais vous êtes une rebelle, en fait. Vous allez dans le sens contraire des autres.
Écoutez, moi, je vais dans le sens où je trouve. C'est-à-dire que je suis allée voir des jeunes en scène. Il y a beaucoup de musique, beaucoup de bruit. C'est très difficile de comprendre les chansons et les textes me semblent ne pas correspondre du tout à ce que j'aime. C'est vrai que commencer mon métier avec Brel, Ferrat, Aragon, continuer ensuite avec un Claude Lemel qui écrit tellement merveilleusement, tomber sur Chelon qui écrit des textes. Alors, pourquoi aller chercher
Maître Gims.
Oui,
franchement, on se demande.
Autre chose que ce que j'aime, ça correspond quand Claude Lemel écrit une chanson pour moi, il ne se trompe pas.
Comment ça se passe quand on écrit une chanson pour vous? Est-ce qu'il arrive avec... Parce que ça doit être quand même inquiétant de venir vous montrer une chanson, vous qui avez chanté du Aragon.
Vous tombez exactement sur... Non mais c'est vrai, sur le mot qu'il fallait dire.
Mais vous avez travaillé, vous
aurez. Mais non, mais il y a un truc qui passe.
C'est inquiétant. Et des jeunes aujourd'hui ont envie de m'écrire, et ça arrive, d'ailleurs il y a un Alain Maudet qui doit avoir 30 ans à tout casser, qui m'a écrit une magnifique chanson, eh bien, ils ont peur, parce qu'effectivement... il faut suivre. Il faut suivre et je le comprends très bien. Personnellement, j'ai essayé d'écrire des chansons et arriver seulement à la cheville de ces grands auteurs, je n'y suis pas parvenue.
La chanson est un genre très particulier. C'est un genre littéraire, je dirais presque, qui est à part. C'est un art extrêmement délicat.
Oui, et surtout, il y a en 3 minutes,
voilà,
il faut avoir tout dit. Exactement. Au cinéma, on a 1h30. Ouais. Au théâtre, on a 1h30, 2h. Mais là, en 3 minutes, il faut avoir tout dit. Et la chance d'être interprète, c'est d'être en scène et de pouvoir, pendant 2 heures, raconter des histoires.
Mais je vous assure,
c'est un...
Elle a les yeux qui brillent.
Oui, vous avez les yeux qui brillent.
Les gars, je suis en train de tomber amoureux, ça sans déconner.
Mais oui,
vous avez prévenu.
Mais oui.
On est trop contents d'être avec Isabelle Aubray. Oui. Vous avez reconnu Soul Man de Sam & Dave sur France Inter à l'écoute des Florilèges de Noël que nous passons, en tout cas dans la première partie de cette émission, en compagnie d'Isabelle Aubray, émission qui date d'il y a 5 ans. C'était hier. Je vous sens au taquet sur le premier sujet. Il y a 2 chemises arrachées et 15 prévenus, titre Le Parisien aujourd'hui en France. Et il y a aussi la une de l'UMA aujourd'hui, hein, je vous la montre, Isabelle Aubray. Air France, l'action syndicale en procès pour une chemise. Le DRH était sorti à poil du comité central d'entreprise il y a presque un an. Et s'il n'y avait pas un contexte de crise sociale, tiens, ce pourrait être peut-être une histoire de fringues et de justice, souriant un peu juste avant d'en reparler.
Alors monsieur, votre pull ?
Ici, hein.
Bah il est jaune. Et votre pantalon ? Bah il est orange. Alors un pull jaune sur un pantalon orange, il y a faute de goût aggravé, monsieur. Bon, donc monsieur la Française, le pays de la mode et du bon goût, et vous, vous vous promenez avec un pull jaune sur un pantalon orange. Alors on veut bien être sympa, monsieur, mais faut arrêter la provocation quand même. Hein. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va verbaliser, puis on va vous arrêter.
C'est les Robins des Bois.
Mais oui.
Revenons-en à un sujet tout à fait sérieux, Isabelle Aubray. Les syndicalistes, ils encourent jusqu'à 3 ans de prison pour ceux qui sont...
Oui, puis 45 000
euros d'amende. Ouais, ouais. Vous les considérez pas comme des délinquants, alors ?
C'est très très violent d'annoncer 2 900 personnes virées. Quand on sait ce que c'est que ne pas avoir de travail, mais à partir du moment où il n'y a pas de discussion et où la menace est tellement pressante... Comment réagir ? Comment faire pour ne pas se rebeller ? Alors, ça coûte une chemise ou deux, c'est pas bien méchant. C'est vrai que c'est le désespoir et la colère. Et je l'ai vécu, j'ai travaillé dans une usine de filature. Alors vous savez, la filature, il y a eu des moments très difficiles dans le textile. Et je quittais l'usine à 16h au lieu de 18h. Et mon père aussi, on était 11 enfants à la maison. Alors c'est vrai que ce sujet m'interpelle et je suis très gravement atteinte par ce genre de...
Oui, c'est toujours des choses qui vous touchent, oui.
Et comment vous, après, vous êtes passée de... Je suis 14 ans ouvrière en usine... Ah, la chanteuse que vous êtes devenue.
Écoutez, c'est un petit peu la chance quand même. Je suivais des cours d'art dramatique après l'usine. Je suivais des cours de danse classique, des cours d'art dramatique. Et j'ai participé à un concours de chant. Et mon professeur faisait partie du jury. C'était un notable de la ville. Il s'appelait Maître Cotinet. Et il m'a vu chanter. Et il a dit, mais voilà, on va vous sortir de l'usine. Et ça a été la première main tendue.
Et quand vous avez eu le premier succès, est-ce que vous êtes revenu après à l'usine, revoir les gens?
Ah oui, bien sûr.
Pour les narguer un peu, pour faire...
J'ai les pognons. Écoutez, je vais vous faire sourire. Mais le jour où le président de la République m'a remis la Légion d'honneur, j'ai eu vraiment le plaisir d'inviter une copine d'usine, une copine de l'école, un peu de ma famille, et c'est un souvenir merveilleux, parce que je garde mes racines profondément ancrées en moi. Je suis une petite fille d'ouvrier, je suis fière de l'être, et j'ai continué mon métier, je le fais de la même façon, d'une manière comme un artisan. Je veux que ce soit beau, je veux que ce soit riche, et je veux que ce soit fort pour représenter justement cette classe qu'on oublie un peu trop facilement.
C'est ça qui vous a uni si fort à Jean Ferrat, cet amour de la classe ouvrière qui était, j'allais dire, autrefois un vrai peuple et une vraie référence et une vraie fierté.
Absolument. Sois fier ouvrier, ton histoire est féconde. Sans toi, que deviendrait le monde? Ne rougis pas de ton métier. Sois fier ouvrier. Isabelle Aubray, présidente. On vote pour vous, Isabelle.
Et on va aborder avec vous, Isabelle, le dernier sujet. Eh bien, un nouveau morceau des Beatles vient de sortir, lui aussi. Mais là, c'est juste qu'il a été composé par une intelligence artificielle. Donc plutôt recomposé, dirons-nous. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, pour cela, Isabelle, je propose de demander l'avis d'un spécialiste, un vrai.
Ah, c'est sympa, la guitare ostinato, ça fait un peu Beatles. Ouais, si tu veux. Ah, et là, il y a un côté Pink Floyd, le côté psychédélique un petit peu. En fait, c'est les Pink Floyd qui rencontrent les Beatles, mais dans un accident de voiture.
C'est André Manoukian dans la série Fais pas ci, fais pas ça. Ouais, carrément, faites de tout, vous, c'est fou, quand même.
Enfin, alors, si c'est payé.
Isabelle Aubray, voilà. Sony veut même, avec, c'est un logiciel, une intelligence artificielle qui a scanné toutes les chansons des Beatles, qui a fait une espèce de
mixage.
Oui, de bouillie, de mixage avec tout ça, et qui a ressorti une chanson. On a écouté que Juliette Arnault, c'est de la bouillie, ça on peut vous le dire.
Non, mais c'est particulier parce que c'est vrai qu'on se dit, ah, c'est les Beatles, ah non, c'est pas les Beatles.
Oui, c'est vrai. Et pourquoi? Alors là, je pense qu'il y a quelque chose qui va vous toucher, Isabelle Aubray. Les paroles ne sont pas celles de l'intelligence artificielle. C'est vraiment le seul truc que l'intelligence artificielle n'a pas pu faire.
Mais
c'est un compositeur français.
Les arrangements non plus. Oui.
Non, mais bien sûr. Ouais. Parce qu'il y a l'être humain. Il faut une âme pour faire de la musique. Il faut une âme pour chanter. Et les ordinateurs n'apporteront jamais ça. La voix humaine, c'est quelque chose de magique. Vous ne pourrez pas remplacer un instrument comme le violoncelle, par exemple, qui se rapproche le plus de la voix humaine. Oui. Un violoncelle qui joue... Mais j'ai les poils debout, rien que d'y penser.
Mais moi aussi.
Continue. Non, les ordinateurs, c'est une blague. Ouais. C'est une blague.
Mais surtout, est-ce que c'est intéressant de prolonger la carrière des artistes qu'on a aimés? Parce que c'est ça l'idée, c'était sans doute de vouloir avoir un nouvel album des Beatles. Est-ce qu'aujourd'hui, ça serait intéressant d'avoir quelqu'un qui nous dirait « Je fais une chanson à la Jean Ferrat ». Je suis pas sûr.
Et personne n'y arrivera. Oui. Personne n'a l'âme de Jean Ferrat.
Alors pourtant, le paradoxe, c'est que la musique, ce sont des mathématiques. En fait, le gars qui a inventé notre gamme occidentale, c'est Pythagore, et c'est un rapport de proportion entre des fréquences.
Mais une intelligence naturelle, donc.
Donc, la musique porte en elle, je dirais, l'harmonie qu'on entend et qui nous fait du bien. Pourquoi est-ce qu'il y a des notes qui nous semblent agréables, des accords, et d'autres qui nous semblent désagréables? Les accords désagréables, ce sont des notes qui sont proches, comme les pays qui sont proches et qui se mettent sur la gueule, par exemple, vous voyez. Alors que les accords qui nous font du bien sont les accords qui ont de l'air, qui sont aérés par des tierces. Donc on pourrait penser que l'ordi peut effectivement modeler une mélodie et l'analyser, parce qu'au fond, il n'y a que cette note qu'on utilise. Mais ce qui fait la beauté, et c'est là que je rejoins Isabelle Aubray, d'une composition, c'est qu'à un moment donné, c'est l'ordre qui part en couille. Et ça, les machines, elles ne savent pas faire encore.
Et voilà, pour le sujet.
Ils sont d'accord, hein, les deux filous.
Ils sont mis de mèche.
C'est un musicien, alors. Moi, j'aime les musiciens, franchement. C'est ma famille.
Moi, j'aime les chanteuses.
Oh, ils sont mignons. C'est Florilège de Noël, c'est vraiment les montagnes russes.
C'est ça.
Non seulement au point de vue des dates, parce que là on va se replonger en 2021, mais aussi au niveau du style, hein, parce qu'on va écouter qui là?
Oui, Jamil Lechlag. Jamil Lechlag, c'était sa chronique de rentrée, nous étions fin août.
Jamil Lechlag, vous avez fait quoi comme études, vous?
J'ai fait...
Sans mentir,
je commençais à rechercher le remix.
Il doit réfléchir.
J'ai fini par un BTS Action Co.
Action commerciale, pour ceux qui...
Même si, voilà, je suis passé par des BEP, des CAP, enfin, j'en parle dans la chronique, donc ça tombe bien.
Allez-y. Et j'ai l'impression que vous vous mettez debout.
Oh là, il se lève.
Le micro est tendu, vous êtes debout.
C'est bon. Ouais, on a passé un été incroyable. Perso, je me suis cultivé. Je suis allé au cinéma. Je suis parti voir Bac Nord. Ah, ça, c'est du film, hein. Tout le monde s'offusque. Oui, c'est un film pro-flic. C'est le point de vue de la police. Mais attendez, les gars, ça s'appelle Bac Nord. Ça s'appelle pas Nos Jours Heureux. Tout ça, ça m'a donné des idées. Et moi aussi, j'aimerais bien faire un film pour donner ma version des faits. Ça s'appellera pas Bac Nord. Ça va s'appeler Bac Pro. Bon. Je vous garantis qu'il y aura de l'action, hein, avec des courses-poursuites en transpalette manuelle. Je vois d'ici les gros titres. Le Monde, une plongée saisissante dans le monde de la chaudronnerie. Valeurs actuelles, Jules Ferry, au secours! Après ce film, je suis sorti, je me sentais comme Charles Bronson, un justicier dans la ville. J'avais envie de reconquérir les territoires perdus de la République. Et là, je croise mon neveu, Doudoune. Cheveux longs, sacoche, jogging, tous les éléments pour un contrôle musclé. Il arrive. Ça va, tonton, bien ou quoi? Bon, là, il n'y a plus de famille, il n'y a plus rien. Je lui ai fait une clé d'étranglement. On dit bonjour, monsieur! Tu tutoies pas! Ouais, tonton, j'ai rien fait, wallah. Il n'y a pas de wallah ici. Je te colle un outrage, t'entends? En 1h40, je suis passé de fichier S à bac E. Non, mais le problème, c'est que je suis influençable. Quand je vois un film, je suis trop dedans. Je deviens le personnage. Une fois, j'ai vu La Planète des Singes. Je suis sorti dans la rue. Non! Non! César! Koba, ami, rassurez-vous. Rassurez-vous, j'ai pas encore vu Le Dictateur de Chaplin. Hamdoulilah. Cet été, je suis resté branché culture. Je suis allé au Festival d'Avignon. Ah bah, il y a des bons spectacles, hein. Mais il y a aussi des spectacles incroyablement claqués. À un moment, je tombe sur l'affiche de Patrick le Toulonnais. Humour brillant, décapant, un spectacle corrosif. Brillant, décapant, corrosif. Non mais attends, c'est le champ lexical de Monsieur Propre. Lui-même se définit comme un humoriste engagé. Pat, il balance. Je me suis dit, génial, ça va ruer dans les brancards. Et là, il monte sur scène et il dit, hey, dites voir, Macron, il nous taxerait pas un peu des fois? Ouh, bravo Robespierre. Ah ben ça, c'est de l'engagement, hein. Prise de risque maximale. Mais si ça, c'est engagé, je suis obligé de penser aux humoristes à Kaboul. L'autre jour, il y a un mec de Kandahar qui est monté à la capitale pour présenter son one man. Il est arrivé sur scène et il a dit, oh, dites voir, les talibans, ils nous fouetteraient pas un peu des fois? Aïe, pardon, non, je rigole, Mahmoud. Ben, son one man d'une heure a duré 30 secondes. Mais là, il y a une prise de risque parce que eux, les talibans, tu sais, ils font flipper. C'est pas Roselyne Bachelot. Cheveux longs, calache. Tu sais, ils font peur à tout le monde. Quand ils sortent dans la rue, les talibans, c'est Starmania. Quand on arrive en V-Hill, les gens changent de pays. Merci de m'avoir écouté.
Ouais, Jamil Lechlag, merci. C'était l'Auvergnat de la bande, c'était Jamil Le Schlag en 2021, cette année, avec un sujet tout frais. Et comme nous écoutons, réécoutons les florilèges de Noël de par Jupiter, retournons plutôt en septembre 2016 pour retrouver la chanteuse Isabelle Aubray. Paris qui envisage de créer un espace récréatif pour que les naturistes puissent se dénuder librement. Bref,
enfin une bonne nouvelle.
Un corps naturiste. Attendez, c'est logique hein, parce que Paris, ça évoque directement la nature. Hein. Enfin, certains habitants sont circonspects quand même.
Glenna.
Monsieur le Président.
Vous trouvez ça drôle, vous, cet étalage de viande?
Le naturisme est de plus en plus à la mode, Monsieur le Président. C'est un club assez original. Meublé en knoll, une clientèle très sélecte, des cadres supérieurs, des...
Déshabillez-vous. Pardon ? Vous allez faire le tour de la salle de rédaction tout nu, nous allons pouvoir juger de l'effet commun.
Monsieur le Président,
je vous dis de vous déshabiller.
Michel Bouquet et Jacques François dans Le Jouet de Francis Weber. Vous avez reconnu Isabelle Aubray.
Les voix, oui.
Ah ben voilà, écoutez, un camp naturiste, c'est pour bientôt, donc à Paris.
On a un lieu déjà ou quelque chose?
Alors là, on n'a pas encore, de précision.
Il y a deux bois visés quand même. Hein.
Ah oui.
Entre le bois de Vincennes et le bois de Boulogne, ils savent pas encore. Alors, le bois de Boulogne, c'est déjà fait. Hein, et d'ailleurs, c'est interdit totalement.
Je vous dirais que ce serait totalement naturiste, ça éviterait quelque chose.
Oui,
parce que parfois,
personne ne se fera arrêter.
C'est vrai. Si c'était en bas de chez vous, Isabelle Aubray dans le parc, pas loin de chez vous, ça vous ennuierait ou pas?
Bah écoutez, moi, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Oui. On a le droit de tourner les yeux aussi. Mais en fait, c'est peut-être aussi la solution pour le bikini.
Oui, le burkini, bien sûr. Burkini. J'allais vous en parler au moment où on le chasse.
Voilà,
le
c'est ça. On va mettre, on va faire un camp de naturiste et puis on fera aussi un camp.
Voilà,
pourquoi pas. Comme ça, tout le monde sera content.
Moi, je dis Isabelle Aubray, présidente femme et maire de Paris.
Femme de solution.
Alors, je garderai que la première partie de Paris.
Il y a 2 millions de naturistes en France et deux fois plus l'été avec les visiteurs. Vous en aviez déjà croisé, vous, Isabelle Aubray, des naturistes?
Non.
Non, jamais. Non. Autour de cette table, oui.
En Ardèche, il y en a beaucoup. Oui. Chez Jean Ferrat, il y en a. Ouais.
Oui, c'est vrai. C'est chez ma mère, il y en a beaucoup.
Ouais. Ah
oui, c'est vrai. Et ils sont tout à fait charmants. Moi, il me semble que quand j'étais petite, dans les années 70, ça nous venait des Hollandais, des touristes hollandais, germains en général, qui se déplaçaient très facilement.
Mais toujours, d'ailleurs. Hein, ils viennent dans les camps de naturistes.
Monsieur et Madame Macron,
on en croisait un, c'est juste, c'est vrai, vous êtes
bien.
Mais
on n'arrive quand même pas à être totalement... On regarde, quoi. On a un œil, quoi.
Ah
si, si.
Pas au bout, mais non,
au bout du dixième, peut-être pas.
Voilà.
Mais oui, c'est ça.
Ce qui compte, c'est les 10 premiers.
Oui.
Personnellement, honnêtement, je trouve pas ça très esthétique.
Oh, voilà. Ça n'avait jamais vu, Isabelle. Alors... Je suis un peu vexé, moi. Je vous défends depuis le début.
En tout cas, moi, je ne m'y risquerai pas.
Alors, Isabelle Aubray, on a une proposition à vous faire. Tout à fait honnête. Hein,
à la fin de l'émission, on propose un sketch à l'invité.
Bah, vous avez vos lunettes.
Parce que vous êtes comédienne aussi. Je vous ai donné le rôle de Cécile Duflot, donc c'est en vert souligné, car ce soir, on le sait moins que le débat Trump-Hillary Clinton, il y a un énorme débat sur Public Sénat et LCP, la primaire d'écologie Les Verts. Et ça va être énorme, on sait évidemment, t'attends une grande audience, et pour être sûr que ce soit nickel, Catherine Barma s'est vue confier l'organisation de cette émission, on se rend immédiatement sur le plateau.
Jean Dylan! Ah, oh, bon sang, ce qui est encore passé. Mais ça sert à quoi de payer un assistant s'il t'assiste jamais? Jean Dylan!
Oui, je suis là, madame Barbara.
Bon, ok. Alors, Jean Dylan, on a du gros boulot, là. Hein.
Oui, il faut rendre Yann Moix sympa?
Non, j'ai dit qu'on devait travailler. Pas faire un miracle. Ah. Donc, il faut qu'on organise le débat d'Europe Écologie Les Verts.
Oh là 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 là.
Oui, alors, je sais, parti comme c'est parti, on va être la première émission à faire moins d'audience que le grand journal.
Ah oui, mais on est sur LCP et Public Sénat, donc.
Hein, sur quoi? Ça existe, ce truc, là, t'es sûr? Non, mais il y a un bouton sur la télécommande ou. Bon, c'est qui les invités?
Il y a les quatre candidats, Karim Adeli, Cécile Duflot, Yannick Jadot et Michel Rivasi.
Qui ça? Bon, Duflot, je vois, mais enfin, c'est qui les autres? Non, mais écoute, je sais pas, moi, appelle Lucchini, BHL, Mélenchon.
Mais non, mais Mélenchon, il est pas vert.
Ah oui, alors ça, je te le confirme. Oui.
Non, mais c'est un débat sérieux, c'est vrai.
Oui, c'est sûr. Bon, devant 37 téléspectateurs, c'est toujours sérieux, je veux dire.
Bonjour Catherine.
Ah, mais voilà la star de la soirée.
Arrêtez, c'est gênant.
Non, mais vraiment, on va faire de l'audience et ce sera grâce à vous.
Ah, je suis émue, ce sera la première fois.
Oui, alors en revanche, on va rythmer l'émission. Hein. Je veux dire, on va mettre des chanteurs. Hein. Qu'est-ce que vous aimez?
Moi, j'aime beaucoup Mireille Mathieu.
Oui, elle n'est pas disponible.
Si, je la connais bien.
Bah, écoutez, Cécile Duflot, je sais que vous êtes pour le recyclage, mais enfin là...
L'important, Catherine, c'est qu'on parle de nos idées.
Quoi? Pardon?
On parle du programme écolo.
Non, mais Jean Dylan, je comprends pas ce qu'elle dit. Hein.
Bon, à demi-mot, elle essaie de vous dire qu'elle aimerait du contenu, quoi.
du contenu.
Pourquoi vous riez?
Non, mais vous êtes parfaits, les écolos, j'adore. Non, mais non, c'est pourquoi vous gagnerez jamais. Hein, c'est...
Qu'est-ce qu'on fait alors?
Ah ben, vous donnez toutes des idées, puis on lance Kenji Girac, voilà, et puis pendant le disque, des gens tweetent pour leur idée préférée, par exemple.
Oh, Catherine, vous êtes géniale, c'est génial.
Oui,
ça.
Oui, je pense aussi. Oui.
Ben, moi, si vous me présentez à la primaire des Verts, je vote pour. Et vous?
Ainsi s'achève la première partie de l'émission en compagnie d'Isabelle Aubray.
Mais oui.
On va changer tout à l'heure de partenaire pour accueillir Gilbert Melki. Mais en attendant, transition, retour en 2021.
Mais oui, deux grandes personnalités de la radio se sont rencontrées, Christine Gonzalez et Pierre Belmar.
Moi, j'avais envie de parler télévision aujourd'hui et de passer en revue les temps forts qui attendent le public sur le petit écran en cette rentrée. Et pour cela, je vais faire appel à un homme qui a marqué le paysage audiovisuel français. Il a tout animé sur toutes les chaînes pendant des décennies. C'est Pierre Belmar. Pierre Belmar, bonjour.
Bonjour, ça va?
Oui, ça va. Ça va et vous?
Je vous entends.
Ouais. Moi aussi, je vous entends.
Vous nous entendez d'où?
Bah, vous dans l'au-delà, moi France Inter. Et puis là, vous passez à la radio.
Si c'est raté, on recommence, on remet un autre disque, bien entendu.
Non, l'interview posthume, c'est en direct. Hein.
Quand on arrive vers 2 minutes 30, 2 minutes 40, on met en route le deuxième disque.
Non, alors après ma chronique, c'est Charline qui reprend et il n'y aura pas de disque. Hein.
Bien. Lorsque l'on va diffuser, quand on arrivera au déraillé de fin, on lancera le disque numéro 2 au début.
Non.
De
non.
manière à faire un enchaînement impeccable.
Non, Pierre Belmar, mais c'est pas grave du tout, pensez plus à ça. En tout cas, merci d'accepter de nous parler. Vous devez remarquer à quel point je me sens...
Extrêmement nerveux.
Non, extrêmement ravi de vous entendre, parce qu'on va parler télévision.
D'accord.
Des nouveautés de la rentrée.
Bien.
Même s'il y a peu de nouveautés, L'amour est dans le pré, Koh-Lanta, Danse avec les stars, The Voice, malheureusement c'est toujours un peu la même chose.
Il y a un besoin de tous les Français de se distraire. On a tellement été sevrés pendant
le Covid.
Voilà. Peut-être à se distraire.
Mais est-ce qu'on est pour autant obligé de resservir la même popote?
Bien entendu.
Ah, bon.
Je prends par exemple une émission de l'époque qui a été un succès colossal qui s'appelle le Ploum Ploum Tralala. Il y avait un indicatif qui donnait ceci. Ploum Ploum Tralala, voilà ce qu'on chante, voilà ce qu'on chante. Ploum Ploum Tralala, voilà ce qu'on chante chez moi. Bon, très intéressante une chanson.
Donc si on se résume, c'était un peu l'ancêtre de The Voice.
Ce Ploum Ploum Tralala était une sorte de crochet radiophonique quotidien, de concours de chansons d'amateurs qui marchait très fort. Ploum Ploum Tralala, voilà ce qu'on chante, voilà ce qu'on chante.
On a compris. Sinon, sur France 2, bonne nouvelle, ce dimanche 5 septembre, Michel Drucker sera de retour aux commandes de son émission Vivement Dimanche.
Il n'est pas mort?
Non, pas ça. On touche pas à Michel. Il va très bien. Il est très, très, très vivant parmi les vivants.
Parmi eux, un vieillard.
Vous êtes gonflé. Vous êtes gonflé. Oh, il a 78 ans et vous avez fait de la radio jusqu'à vos 88 ans. Donc bon.
Et les gens passent comme le courant d'une rivière inconnue.
Pierre.
Et nous restons sur la berge sans en savoir davantage.
Pierre Belmar.
L'homme ne lutte plus. Et sous une tente à oxygène, son regard flou s'accroche à la silhouette en uniforme debout devant son lit.
C'est bon? C'est fini?
C'est fini.
Bon, allez, il ne faut pas être trop mauvaise langue sur cette rentrée télévisuelle. Il n'y a pas que du recyclage. Il y a quand même un nouveau concept de Thierry Ardisson qui débarque en cette rentrée sur France 3. Et c'est, je trouve, très original. Est-ce que vous savez ce que c'est?
Non.
Il va interviewer des morts. C'est un concept qui existait. Non. Ça n'existait tout simplement pas.
Non, ça n'existait pas.
Non. Et moi, je trouve sincèrement que c'est une super idée.
Pourquoi
je le ferais pas, moi? Non, pourquoi? Pourquoi moi?
Comme ça.
Non, c'est pas mon genre. Moi, j'aime pas qu'on touche à la mémoire des gens. C'est ça, la mort, c'est glauque. Puis on est à la limite du blasphème, non, franchement.
Bien entendu.
Donc, conclusion, Pierre Belmar. En télévision comme ailleurs, tout a été fait et refait, on est d'accord?
Oui.
Voilà.
On est sûr de faire des succès avec même des idées assez banales. Le Ploum Ploum Tralala, donc je dis, c'est pas une idée géniale, mais pour autant, ça a été un succès considérable. Ploum Ploum Tralala, voilà ce qu'on chante chez moi.
Merci Pierre Belmar. Bah, c'est déjà la fin de cette interview posthume.
C'est fini. Coupé.
Non, il n'y a pas de coupé.
Qu'est-ce qui se passe?
On est en direct. Hein, Bon, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. On s'appelle ou on se fait un... Comment ça s'appelle déjà ce truc?
Zoom.
Un zoom, voilà, c'est ça. Allez, bisous, à bientôt.
À bientôt.
Oh,
compagnon des mauvais jours. Je vous souhaite une bonne nuit. Et je m'en vais, la recette a été mauvaise. C'est encore une fois de ma faute. Tous les torts sont de mon côté. Alors je m'en vais, j'aurais dû vous écouter. J'aurais dû jouer du caniche, c'est une musique qui plaît. J'aurais dû nous écouter. Mais je n'en ai fait qu'à ma tête. Et puis je me suis énervé. Compagnon des mauvais jours, pensez à moi quelquefois. Plus tard, quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue du fort et du saumon fumé au bord de la mer. Les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours. Compagnon des mauvais jours, que vous soyez une bonne nuit. Et je m'en vais, la recette a été mauvaise. On joue du chien à poil dur. Il faut ménager son archer. Alors je m'en vais et j'en ne vienne pas au concert pour entendre hurler à la mort. Et cette chanson de la fourrière nous a causé le plus grand tort. Compagnon, une ou trois cigarettes dans le paquet et je m'en vais, je m'en vais. Compagnon des mauvais jours, pensez à moi quelquefois. Plus tard, quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer. Au bord de la mer. Les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours. Compagnons, les mauvais jours, que vous soyez une bonne nuit. Les mauvais jours, compagnons, les mauvais jours, que vous soyez une bonne nuit.
De Feu Chatterton que vous écoutez dans les florilèges de Noël de par Jupiter. On est allé retrouver d'anciennes émissions. C'était, oh, c'est, on peut pas dire que c'est nos débuts, mais
si,
presque.
Un peu,
ouais, un petit peu. 2016, vous allez entendre le changement de style. Hein. Ça, ouh là là, ça a évolué, mais tellement.
En bien ?
Bah, je sais pas.
Bah, oui.
Non,
bah,
rien n'a changé.
Non.
Écoutez, c'est avec Gilbert Melki. C'est ça qui change tout déjà.
Oui.
Gilbert Melki, on vous retrouve au cinéma après quelques années d'absence parce que Kabul Kitchen vous avez accaparé.
Non, vraiment.
Et ouais, dans Le Vendeur, qui est un premier film et un premier très chouette film de Sylvain Descloux, notamment avec Pio Marmaille ou Pascal Elzo.
Ouais.
Vous êtes un VRP, un vendeur de cuisine. Mmh. Oui, mais le meilleur vendeur de cuisine.
Of the world.
Ouais. Alors derrière cette histoire de VRP, finalement, quel est le fond du message que fait passer ce film? Est-ce qu'il raconte quelque chose de la France d'aujourd'hui, de 2016?
Effectivement, c'est une France de...
de l'effort. Le mec, il va complètement avoir un discours complètement de dingue.
Cette France qui se lève tôt.
Cette France qui se lève tôt. Cette France
qui... Contre
qui
la France,
des pays.
Et qui travaille pour les assister, oui, il faut dire.
Qui se drogue.
Qui se drogue.
Qui se jette à corps perdu dans le chiffre.
Il y a des call girls, il y a tout, il y a de la BM. Il y a de la zik américaine.
C'est pas la
tout
France. Ça.
Mais dans votre rôle, vous vous jetez à corps perdu là-dedans, jusqu'à vous perdre vous. Mais est-ce qu'il y a une forme... c'est aussi l'histoire d'une forme d'addiction.
Moi, ce qui me plaisait de jouer dans le personnage de Serge de Vendeur, c'est toutes ces addictions. Ça, l'addiction à la drogue, l'addiction au travail, l'addiction au fric, l'addiction aux
femmes,
aux call girls, l'addiction à la clope, il fume énormément. Et toutes ces addictions. Mais ce que j'aimais bien dans le film, après, enfin, où la bascule se fait, c'est-à-dire, c'est quand Pio, le personnage de Pio, va devenir comme moi. Et c'est pas qu'il ne supporte pas qu'il devienne comme, il ne supporte pas qu'il devienne comme lui dans le sens qui tombe dans les mêmes pièges, voilà. Oui. Et donc, il va l'éloigner de ce métier, qui est un métier vraiment qui est pas pour lui, qu'il a pas envie que son fils fasse ce métier. Voilà, il a pas du tout envie de faire ça.
Vous avez aussi sillonné la France pour présenter le film,
ouais.
De la même manière que votre personnage sillonne les zones commerciales et la France, parce que c'est un bon vendeur et on le veut partout. Pendant un mois et demi, vous présentez le film. J'imagine vous racontez la même chose tout le temps. Est-ce qu'il y a une question que les gens vous ont pas posée ou que les journalistes ne vous ont pas posée et ça vous a empêché de dire quelque chose qui vous tenait très à cœur sur ce film? Si c'est le cas, vous avez l'occasion maintenant.
Oh là,
vous êtes étonné de me dire, tiens, c'est marrant, on m'a jamais posé cette question sur ce film alors que...
C'est vrai que c'est une bonne question.
Peut-être on vous a posé toutes les questions.
Non.
Cette question-là, vous l'avez pas posée en tout cas.
Non, cette question-là, on me l'a pas posée. Celle-ci, on me l'a pas posée.
Et Gilbert, c'est quand elle travaille pas. Hein. C'est qu'elle se dit à la fin, je vais lui demander la question qu'il veut, comme ça, il prend.
Mais oui, c'est une question faite de bon cœur. Attention, on va d'abord poser les bases, Gilbert,
ouais,
hein, parce que
dites-moi.
Sur des bases bien solides, on va pouvoir débattre. C'est le premier procès de l'ennui au travail. Frédéric était payé 4000 euros par mois à Paris, un statut de cadre dont la responsabilité était essentiellement la gestion de la machine à café et de la photocopieuse. Une placardisation qui l'a mené à une grosse dépression et à un licenciement. S'ennuyer pour 4000 euros par mois et puis porter plainte, pas évident. Il a fallu se préparer à affronter les juges, bien sûr.
Bonne chance, Pud.
T'es sympa.
Et surtout, n'oublie pas.
Quoi ?
S'ils pensent que tu glandes, c'est foutu. Ils passeront un coup de fil au chômage et ils leur diront « Celui-là, c'est un glandeur. Résultat, tu recevras plus ton chèque. »
Ouais.
Mais si tu l'ajoutes trop zélé...
Ils me le donnent leur putain de job.
C'est ça le hic.
Cauchemar.
La corde raide, Spud. Ça fout les chocottes, leur saloperie.
Alors, c'est Trainspotting, hein, c'est un extrait du film. C'est un article à lire, par exemple, dans Le Parisien aujourd'hui en France. C'est le procès de la placardisation d'un employé, donc transformé en une sorte de zombie professionnel. Est-ce que vous, Gilbert Melki, vous arrivez à conceptualiser ça, qu'on puisse s'ennuyer autant?
Pour 4000 balles?
Ouais.
Il s'ennuie pour 4000 balles par mois.
Ouais, dans un bureau des Champs-Élysées.
On peut s'ennuyer pour 4000 euros par. Oui, on peut s'ennuyer, oui.
Qu'est-ce que vous feriez? Vous, par exemple, si vous étiez employé cadre, c'est-à-dire que vous êtes surqualifié pour le boulot, vous emmerdez à mourir et vous intervenez quand il y a la machine à café qui clame, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous emmenez des bouquins, peut-être des films, je sais pas?
Je sais pas déjà. S'il gagne 4000 euros par mois, il peut trouver un autre job au même tarif et où il peut moins s'ennuyer, peut-être, non? Je sais pas.
Et il est ancien directeur des services généraux chez Interparfums. Il a été licencié
ben voilà,
fin septembre.
C'est ça.
Ça peut être pénible, ça.
Ouais. Ça peut être emmerdant, là, ça, les parfums.
Il y a comme un phénomène quand même de surqualification des gens qui font beaucoup d'études, etc., puis qui se retrouvent placardisés à faire rien du tout.
Pourquoi vous m'interrogez pas? Parce que moi j'ai toutes les compétences pour être dans le masque et la plume et me fichier ici avec vous. Alors franchement, je pense.
Alex, c'est la machine à café cassée.
Gilbert Melki, justement, dans le film Vendeur, votre personnage, il a un boulot de vendeur de cuisine. Ça semble assez peu valorisant, mais il s'y jette à corps perdu. Donc il a peut-être peur de s'ennuyer aussi, non? Donc,
je pense que c'est un type qui a besoin de liberté aussi, de pouvoir. C'est quelqu'un aussi qui est d'égoïste aussi quelque part.
Et il kiffe d'être le meilleur. Ça lui
pardon
plaît. Il kiffe d'être le meilleur.
Il kiffe d'être le meilleur. Ouais. Il adore ça. Il gagne très
exemple.
Bien sa vie. Ouais. Tous ses collègues le regardent. Ils sont comme ça devant lui.
C'est le lion.
C'est le lion.
C'est le lion. Mais voilà, peut-être une solution. Si vous êtes le meilleur sur la machine à café. Est-ce que c'est pas hein, je sais pas.
J'suis
on est ici
pas
pour
mal,
trouver des solutions. Voilà, des solutions et des explications. C'est une deuxième partie d'émission avec des comédiens. Oui. On était avec Gilbert Melki et là on a un chroniqueur dans l'équipe qui l'est aussi.
Mais oui, dans le métier UTT, comédien, dans une autre vie avant que cette place de chroniqueur ne prenne toute la place qui est la sienne. Hippolyte Girardot, bien évidemment, et on l'écoute divaguer.
Bon, avouez-le quand même, on y croyait. Enfin, moi, j'y croyais, en tout cas. Je me disais, quand le confinement est devenu quasiment mondial, qu'on a recommencé à entendre des oiseaux dans les villes, à remarquer l'herbe qui repoussait sur les trottoirs, qu'on a vu des antilopes se promener dans les centres commerciaux, dans les pays à antilopes, certes, quand le taux de pollution a baissé drastiquement au point que courir en ville n'exposait plus à une toux prolongée, que le ciel n'était plus barré de traces de kérosène brûlé, ben, ouais, on y a cru. Ce virus flottant dans l'air qui nous enfermait, c'était le châtiment, la cloche de l'apocalypse, la fin d'un monde, mais aussi, on le savait, le début d'un autre. On y a cru. On a entendu des discours, des repentances, des promesses, des envolées lyriques. On a même lu des livres écrits dans des cabanons en Normandie, prônant la vie simple, et là, on y a presque cru. On était prêts à être des parents exemplaires, faisant l'école et la cantine, des amants exemplaires, prêts à forniquer en Skype, des chroniqueurs tout aussi exemplaires, prêts à passer des heures à se coordonner en Zoom pour faire de la radio. On voulait être des commerçants, des consommateurs et des commerçants responsables, mangeant végétarien à 200 mètres de chez soi, des cuisiniers du dimanche toute la semaine. On y croyait à penser comme ça. On savait qu'on avait changé, qu'on n'était plus les mêmes. Alors on écoutait de la musique chill, genre Brahms, Sibelius ou Boudabar, ou alors des chansons de circonstances comme à nos héros du quotidien, de Soprano, ou Résiste, mais pas dans la version d'Alain René, ou encore du très littéral comme Don't Stand Too Close to Me de Police, qui portait cette fois opportunément son nom. Oui, on y a cru, secrètement, on y a cru. Comme on croit les rêves, comme on croit les cauchemars. Ouais, putain, comme cette nuit où vous avez beaucoup, beaucoup trop de bagages dans tous les sens. On ne s'en sort pas, vous devez les passer sur le tapis de contrôle et bien sûr, vous êtes recalé à cause du poids et qu'en plus, vous avez complètement oublié que vous devez aller chercher la fille d'une copine à l'école et finalement, vous avez laissé trois valises. Mais pourquoi? Mais quelle idée, ces valises? Dans ces rêves, tout est absurde et tout a un sens. Et donc, alors stupide, vous emportez les deux valises qui vous restent dans un autre aéroport alors que vous savez très bien que vous n'êtes pas enregistré. Et là, vous tombez dans un bouteille de 400 taxis alors qu'un lion traverse le passage piéton. Et là, vous comprenez que vous êtes à Conakry, capitale de la Guinée. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous devriez être à Blaise d'Agne, à Dakar. Et que vous êtes en train, au fond du monde, de vous réveiller. De vous réveiller. Ça n'était qu'un songe. Voilà, pareil. C'est idem. Ici, on se réveille. Mais la seule différence, c'est qu'on retourne dans un cauchemar qui continue. Il ne s'est rien passé, en fait. On fait comme si de rien n'était, c'est ça? On continue le greenwashing, les journaux libres qui meurent et les blagues à la con. On retrouve les mêmes têtes qu'il y a 4 ans pour ne surtout pas changer le monde. Les cartables des écoliers sont toujours aussi lourds et les débats toujours aussi chiants. Ouais, bah on n'a qu'à danser, alors on danse. Je me souviens d'un truc. Puisqu'on parle de cinéma un jour, en 90, un personnage de film a dit « On n'a plus qu'à être amoureux comme des cons, et ça c'est pire que tout. » Eh ben en 2020, je suis pas sûr qu'être amoureux soit le pire. Pas sûr du tout. Allez, bon mercredi à tous, les pitchounes.
On quitte la modernité d'un Hippolyte Girardot, d'autant que cette chronique date de 2021, c'est-à-dire aujourd'hui, pour revenir en 2016, en compagnie de Gilbert Melki, à qui on a soumis un thème d'actualité du moment, ainsi qu'un sketch où il joue Karl Lagerfeld. Alors ne le ratez pas, restez avec nous. Oui. Taisez-vous dans la classe, non, parce que c'est l'heure des travaux pratiques.
Pardon. Oui.
Alors attention, si comme Clo-Clo vous devez revisser une ampoule alors que vous êtes dans votre bain, la résistance du corps étant trop faible et le courant étant d'une forte intensité, c'est le drame. Voilà. Ce cas pratique devait figurer dans le prochain manuel scolaire publié par Bordas. C'est le nouveau Clo-Clo Gate.
Maman est près de toi. Faut lui dire maman, c'est quelqu'un pour toi.
Ah, c'est monsieur la dernière fois. Bon, je vais la chercher. Je crois qu'elle est dans son bain.
Oh merde.
Ben oui, mais il n'avait pas lu le manuel.
Clo-Clo featuring un court-circuit sur le tout. Alors je vous lis un petit extrait, c'était écrit noir sur blanc dans le projet de prochain manuel Bordas. Il y avait un cas pratique. Alors qu'il prenait un bain, le chanteur Claude François remarqua que l'applique surplombant sa baignoire n'était pas droite. Malheureusement, les fils électriques alimentant l'ampoule étaient dénudés. Dès que ses doigts entrèrent en contact avec le métal, sa main resta collée à l'applique. Mouillé, les pieds dans l'eau, il n'eut aucune chance.
Sachant que Claude François avait pris deux tubes d'antidépresseurs.
Il y a un corollaire.
Il y a une image est passée devant vous, Gilbert.
Non, l'image de Claude François avec les pieds dans l'eau et puis
c'est une image. Le film s'ouvre. Mais alors, donc le manuel scolaire dit on voulait sensibiliser aussi par ce cas pratique, sensibiliser au danger de l'électrocution. Ça vous choque, vous, qu'on utilise un cas pratique
comme ça? Maintenant, on est en 2016, il y a des prises qui sont pour les enfants, il y a plein de trucs qui sont vachement bien maintenant.
Exactement.
Bah oui.
Mais moi, je me dis, si le petit-fils ou la petite-fille de Claude François se retrouve à devoir étudier ce cas-là, c'est quand même.
Alors,
il risque d'essayer, on ne sait pas.
Il y a aussi le théorème de Mike Brandt, qui dit que tout corps qui tombe par la fenêtre, je ne sais pas quoi. Mais...
C'est Newton, Mike Brandt.
Un cas pratique avec Justin Bieber ou Gilbert Melki.
Ouais, je vais essayer ça, tiens. Moi, je me souviens très bien où j'étais quand Claude François est mort.
Ah, racontez-nous.
C'est dingue, c'est un truc de dingue, une histoire de dingue. Ouais, c'est un truc de malade.
Il y a intérêt que ce soit drôle.
Mais non, mais c'est vrai, à chaque fois, je pense, dès qu'on me parle de Claude François, j'étais au drugstore. Alors, j'aime bien dire drugstore.
Au drugstore.
Opéra.
Ah, l'opéra.
Il y avait un drugstore à Opéra. Ah. Et il y avait des trucs comme ça. On allait draguer les filles au drugstore Opéra avant. On allait draguer au drugstore. Ouais. Comme la chanson de Dutron. Ouais. Voilà.
Et
c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Je vous embrasse. À bientôt.
Et après, les Allemands sont venus. Et
mais
tout
y avait
a changé.
C'est le bouche à oreille dans le drugstore. Il y avait des
haut-parleurs. Oui, ça a été un choc dans Paris. Oui, les Claude François.
Les gens disaient.
Les gens disaient. Là, t'en rends compte, Claude François est mort. Il n'y a pas de portable.
Bon, c'est Jérôme, vous étiez.
Donc tout le monde s'embrasse. Enfin, tout le monde était.
On a les Kennedy qu'on mérite.
Effectivement. Gilbert Melki.
Oui.
Vous connaissez l'émission. Vous connaissez la sentence.
À la fin, c'est la rupture.
Ah oui, il y a un truc. Il y a un petit texte.
Attention, je vous donne un rôle. Le rôle de Karl Lagerfeld, parce que Chanel.
Oh, je sais pas du tout imiter l'accent allemand, moi, pour moi.
Je le sentais. Je me suis dit, ça, c'est un bel exercice de comédien. Karl Lagerfeld, il y a défilé. Il y a défilé.
Un autre accent.
Composé. Il y a défilé Chanel. Il y a défilé Chanel, c'est à la Havane. Et on y va, on s'y rend. Raoul Castro, c'est Guillaume Meurice.
Camarade, bonjour. Vous êtes.
Qui c'est celui-là?
Vous connaissez pas Karl Lagerfeld?
Karl qui?
Karl Lagerfeld.
Karl Marx?
Non, Karl Lagerfeld.
Ah, c'est vous le couturier?
Ouais. Et on m'appelle aussi le Kaiser.
Ah, moi, on m'appelle le leader minimo, par comparaison à mon frère qu'on appelle le leader maximo. Ah, je vous présente d'ailleurs, Fidel.
Qu'est-ce qu'il dit?
Ah oui, il dit qu'il vous adore. Vous êtes à la tête de la maison Chanel depuis combien de temps?
33 ans.
Ah ben voilà, comme mon frère. Lui, il est resté 31 ans à la tête de la maison Cuba.
Révolution. Qu'est-ce qu'il dit?
Ah, il dit qu'il vous adore, là. Oui. Qu'est-ce que vous venez faire chez nous?
La maison Chanel vient présenter sa nouvelle collection 2017.
collection du sentier.
Voilà, c'est ça.
Cette Coco Chanel à laquelle vous faites allusion, elle aimait le régime communiste.
Ah, je vous présente Choupette.
Ah, c'est votre directrice artistique?
Non, c'est ma chatte. La chatte la plus célèbre du monde.
Miaou!
Elle devrait vous plaire.
Pourquoi alors? Pourquoi elle devrait me plaire?
Elle est castrée.
Ah oui, ça doit être de l'humour capitaliste. La
révolution. Qu'est-ce qu'il dit?
Il dit qu'il vous adore. Il adore vos jeux de mots.
Il a compris la vanne?
Ah oui, absolument, oui.
Il a compris la vanne? Okay, c'est un jeu de mots.
Oui, jeu de mots, j'ai compris. Bon, vous me montrez la collection?
Voilà un modèle qui va vous plaire.
Ah, c'est original. Une tunique orange, hein, c'est ça?
C'est notre collection Guantanamo.
Ah, d'accord.
Et les autres suivent.
Ah, d'accord. Mais c'est tous les mêmes, là.
C'est notre collection Guantanamo. Ah. Voilà.
Là, il dit que vous vous foutez de notre gueule, par contre.
Oui, c'est vous dire que si je vous traite comme les Parisiens. Oui, je n'ai pas compris bien cette phrase. Mais c'est pas grave. Oui, j'ai fait une chute.
Vous avez niqué la chute, là.
Refaites-la, allez-y.
Oui, c'est dire si je vous traite comme les Parisiens. C'est une chute bizarre. j'ai chuté là, c'était.
Mais vous avez chuté sur la chute. Et chuté sur la chute, c'est magnifique. C'est un grand acteur, ce Gilbert Melki. Après cette bonne tranche de rigolade, Alex, on va remettre une couche avec de la guitare.
Eh oui, il était une fois Juliette Arnaud et Frédéric Fromet.
Oh.
Eh bien, pour calmer tout le monde sur l'apparition du pronom Yel dans Le Petit Robert, voici un duo qui, lui, n'entrera jamais dans le dictionnaire. J'ai encore rêvé d'Yel. Je n'ai rien fait pour ça.
Elle dit que oui.
Yel n'est pas vraiment Biel.
Regarde-toi.
Yel est faite pour moi.
Calme ta joie.
Yel est super.
fort, Yoel. Dis-le-moi encore,
Yoel.
Indico, avec Yoel et moi, pourquoi pas. J'ai encore rêvé d'Yoel.
J'ai mal dormi.
Quand même pas pour ça.
C'est le Beaujolais.
On chante mal, et alors.
C'est le Beaujolais.
L'essentiel, c'est l'effort.
Non, c'est le Beaujolais.
Yel, c'est le Juju. Et Yel a trop bu. Si Yel pouvait au moins dessouler.
Moi, c'est ce débat qui me saoule.
Tu as raison, pourquoi c'est trippé. Faisons tous la Chardonnay. S'il est pour les contre, pouvait la fermer.
Ouais, parce que là, les commentaires,
ça va finir en bataille rangée. On est trop binaire.
Yoel,
pour un mot, c'est la guerre.
Yoel,
indico, avec Yoel et moi. Ça fait quoi du bien à certains.
Et à certaines. T'as vraiment rien compris, en fait.
Ah merde, j'aurais dû chanter comme un avion sans Yel.
Ainsi s'achève cette émission, Alex.
Joyeux Noël, Charline.
Joyeux Noël, oui. Et cette semaine aussi s'achève.
Bien sûr.
Alors c'est le moment de remercier toute l'équipe. Merci beaucoup à Anna Bouy à la réalisation de ces florilèges. Merci à Clément Vuillet à la technique et à toute l'équipe qui prépare cette émission.
Totalement.
Nos attachés de production, Nathalie Romero, Fabrice Rivaud, Mathias Volant, accompagné d'Emma Poésie, à la programmation musicale Djoubaka, à la rédaction en chef d'orchestre Ramzi Assadi. Et moi je vous dis...
Joyeux Noël.
Oui.
Ben dites-moi ça plutôt.
À
lundi.
Joyeux Noël à lundi. Avec qui? Angélique Kidjo et François Damiens.
Oh, c'est des cadeaux.